L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
La prise en charge des addictions sur le département. Que peut-on en dire et comment la mettre en avant sans stigmatiser les usagers? Quelles sont les addictions les plus courantes et comment sont-elles prises en charge? Enfin, si vous ou l'un de vos proches semble avoir besoin d'aide, reconnaissez les signes de l'addiction, quelle qu'elle soit, et demandez de l'aide aux bonnes personnes, car le département est riche de structures de soutien et de suivi. On découvre ce sujet encore tabou avec nos invités du jour, les docteurs Bernabeu et Pofila, addictologues au centre hospitalier de Flérien.
On les retrouve tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Les Restos du Cœur se mobilisent pour les tout-petits.
Cette année, la campagne d'hiver des Restos du Cœur place les enfants de 0 à 36 mois au cœur de ses priorités. Au centre de Bourg-en-Bresse, les bénévoles ont réorganisé les circuits de distribution pour répondre à cette mission essentielle. Les 170 bébés concernés reçoivent une dotation supplémentaire, notamment en lait et en protéines, pour couvrir leurs besoins. Les inscriptions continuent d'augmenter avec un nombre croissant de très jeunes enfants parmi les bénéficiaires, tout comme lors de la campagne d'été. Les bénévoles restent mobilisés pour soutenir les plus vulnérables tout au long de l'hiver et vous pouvez toujours les rejoindre. Informations sur ad01.restioducœur.org.
La natalité en recul dans l'Ain.
En 2024, le nombre de naissances continue de diminuer dans les maternités de l'Ain, suivant une tendance nationale. Au centre hospitalier de Fléria, 1792 bébés ont vu le jour, un chiffre bien en deçà du record de 2239 naissances enregistré il y a 10 ans, en 2014. La maternité d'Oyonnax subit une baisse encore plus marquée, 469 naissances en 2024, soit 18% de moins qu'en 2023. Malgré la stabilisation des équipes médicales, la région n'échappe pas à ce phénomène démographique.
Radio B, les bonnes ondes.
Les cormorans entre fascination et défi pour les écosystèmes de l'Ain.
Chaque hiver, le grand cormoran investit les cours d'eau et plans d'eau de l'Ain, notamment la Dombe. Ces oiseaux migrateurs, arrivés dans la région il y a seulement 25 ans, forment des dortoirs impressionnants regroupant parfois plusieurs milliers d'individus. Espèce protégée, le grand cormoran représente aussi un défi écologique et parfois économique. 300 à 500 grammes de poisson consommés par jour en font une source de tension avec les pêcheurs et pisciculteurs. Si des dérogations de tir sont possibles, elles sont strictement encadrées par la réglementation environnementale. Ces autorisations sont accordées sous certaines conditions, pour prévenir des dommages importants aux piscicultures, pour protéger des espèces de poissons en danger ou encore maintenir un équilibre dans les habitats naturels que les cormorans peuvent parfois dégrader. Les demandes doivent être déposées en ligne et sont limitées à des quotas fixés par arrêté préfectoral. Au-delà des polémiques, l'observation de ces oiseaux qui volent en V ou dans leur zone de repos reste un spectacle saisissant.
L'un dans l'autre, l'interview. Addiction, sevrage, troubles de l'usage, produits. Est-ce qu'on sait vraiment de quoi il retourne lorsqu'on évoque la maladie chronique qu'est l'addiction? Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas être accro à tout et est-ce qu'on n'est pas tous accro à quelque chose? Les docteurs Bernabeu et Pofila, médecins généralistes spécialisés en addictologie et responsables du service d'addictologie du centre hospitalier de Fléria, répondent à nos questions. Ensemble, on définit ce qui fait aujourd'hui l'addiction et les possibilités de prise en charge dans l'Ain. Présentez-nous brièvement vos parcours et vos rôles respectifs au centre hospitalier de Fléria.
Bonjour, donc je suis le docteur Pofila, je suis un des médecins addictologues de l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Je suis donc médecin généraliste, spécialisé en addictologie. J'ai fait l'ensemble de mes études à Lyon, donc externat, internat. Après avoir passé ma thèse, j'ai pris directement le poste dans le service d'addictologie de l'hôpital de Bourg-en-Bresse.
Donc voilà, je suis docteur Bernabeu, médecin addictologue, je suis médecin généraliste de formation. J'ai fait également l'ensemble de mon parcours sur Lyon, externat, internat, avec une grande partie de mon internat sur Bourg-en-Bresse. Donc suite à ça, j'ai intégré l'hôpital de Bourg-en-Bresse comme assistant généraliste au départ. Puis je me suis petit à petit intéressé à l'addictologie, puis j'ai passé ma capacité d'addictologie. Et actuellement, donc, je dirige avec le docteur Pofila le service d'addictologie de Bourg-en-Bresse.
Très bien, merci beaucoup. Alors, quel est le rôle du centre hospitalier dans la prise en charge de manière générale des addictions ?
La prise en charge des addictions ne peut pas se limiter au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Ça va vraiment être, c'est l'ensemble du département qui va la prendre en charge, l'ensemble des partenaires, parce qu'on ne peut travailler qu'en filière quand on parle d'addiction. On a une structure qui est dite de sevrage. Donc on va prendre les gens pour les sevrer d'un produit. On travaille essentiellement sur les addictions avec produits dans le cadre de l'hospitalisation. Ces hospitalisations, elles vont faire suite à des consultations, parce qu'on a également toute une activité de consultation, notamment des consultations d'évaluation et de préadmission avant hospitalisation, et puis par la suite des consultations également de suivi de nos patients. Le troisième rôle, ça va être un rôle également d'aide pour l'ensemble des services du centre hospitalier. Donc ça, c'est le rôle de l'équipe de liaison des soins en addictologie, donc qui fait partie du service, où là, on va à la demande de nos collègues, voir des patients qui présentent ce type de pathologie. On les prend en charge, on essaye de les orienter. Surtout, on fait une évaluation, de voir un petit peu de leur motivation, de leurs demandes et de comment on peut les accompagner. Voilà un petit peu pour la première partie. Et également avec une partie qui est importante, qui est une partie formation. Formation, là, c'est plutôt au niveau des équipes du centre hospitalier. Donc, c'est sensibiliser les professionnels à cette pathologie qui est quand même extrêmement complexe.
J'ai lu que le service d'addictologie est une structure de niveau 2. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors en fait, en structure d'hospitalisation, vous avez trois niveaux. Un niveau 1 qui sont des sevrages simples, où on ne fait que le sevrage physique. Après, il y a le niveau 2, où on fait des sevrages dits complexes, où on va avoir une prise en charge à la fois sur le plan du syndrome de sevrage physique, mais également, on commence à travailler sur tout le versant, on va dire, psychologique, social, environnemental du patient, et on s'occupe de l'orientation par la suite, parce que sans suivi, un sevrage isolé n'a quasiment aucun sens. C'est une pathologie qui est chronique. Donc, qui dit chronique, on ne peut pas la traiter en quelques jours ou quelques semaines. C'est quelque chose qui va perdurer, qui va se faire sur des semaines, des mois, souvent 1, 2, 3 ans. Donc, c'est mettre en lien par la suite les patients avec nos différents partenaires qui font partie de la filière addictologique.
Donc là, sur une structure de niveau 2, c'est ce que vous faites. Vous prenez en charge le physique, le psychologique, le social, etc.
Pour faire partie d'un niveau 2, il faut un certain nombre de jours. Alors, il a changé, je ne le connais pas exactement, mais il doit dépasser en tout cas une semaine où pendant une semaine, on fait que le sevrage physique. Et nous, la deuxième semaine, on travaille vraiment sur l'aspect psychologique et comportemental avec les différents intervenants qu'il y a dans le service. Donc, on a des psychologues spécialisés en addictologie, une assistante sociale. On a des ateliers avec des associations de groupes de parole et d'anciens patients consommateurs. On a un infirmier en pratique avancée spécialisé en addictologie. On a aussi des APA. Donc,
un éducateur en activité physique adaptée.
Voilà, c'est EAPA plutôt. Une diététicienne. On a aussi une patiente experte qui intervient un vendredi sur deux. Donc, qui a une formation spécifique et qui a été dans l'addiction et qui aujourd'hui en est sortie et fait part de son expérience et de ce qu'elle a connu.
Donc, vous avez parlé de sevrage avec produits. Donc, quand on dit addiction, on va penser effectivement moi, ce que je vais appeler les substances, quoi, licites ou non. Mais aussi, par exemple, à la nourriture. Bon, j'avais parlé des jeux, des écrans, mais bon, a priori, ce n'est pas pris en charge, ça, sur Bourg, c'est ça ?
Pas isolément. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que quand on reçoit un patient qui a un trouble de l'usage, donc trouble de l'usage quelconque, soit d'un produit, soit d'un comportement, trouble du comportement alimentaire, achat compulsif, sexe, jeux vidéo, voilà, il en existe plein, sport, etc. etc. C'est vrai que nous, on est amené à prendre en charge tous les types d'addictions, mais dans la majorité des cas, en fait, les patients ont des polyaddictions, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs addictions qui se chevauchent. À l'inverse, certaines addictions isolées, on n'a pas les possibilités au sein de nos structures de les prendre en charge seules parce qu'elles nécessitent un cadre spécifique et des prises en charge spécifiques, notamment les troubles du comportement alimentaire.
Est-ce qu'il y a des produits qui ressortent plus sur le territoire ?
On va dire que le produit qui ressort le plus, c'est toujours le même, c'est l'alcool. Mmh. Tout à l'heure, on parlait de produits licites ou illicites. Finalement, c'est le trouble de l'usage qui est la problématique centrale. Hein. Et le produit qui ressort le plus, c'est aujourd'hui encore l'alcool.
En hospitalier, ça sera l'alcool, mais de façon générale, c'est alcool-tabac. Sauf qu'en pratique, les sevrages en tabac se font en consultation et rarement, et voire exceptionnellement, lors d'un sevrage à l'hôpital.
Alors, comment les patients sont orientés vers vous ? Les médecins généralistes jouent-ils un rôle dans le processus ?
Oh oui, les médecins généralistes sont la clé, c'est la personne centrale du parcours de soins du patient. Hein. C'est eux qui connaissent le mieux leurs patients et c'est souvent par leur biais que les patients nous sont adressés.
On les a évoqués jusqu'à maintenant. Quelles sont les structures associatives, par exemple, vers lesquelles orienter aussi peut-être des premières démarches ?
Alors, il y a une chose importante en amont, c'est que les patients qui sont donc addicts ou qui ont un trouble de l'usage, dans l'immense majorité des cas, ils ont ce qu'on appelle une pathologie duelle, c'est-à-dire qu'il y a une part addictologique et une part psychiatrique, les deux s'entremêlant. On peut avoir par exemple quelqu'un qui a un syndrome dépressif et un trouble de l'usage de l'alcool, et dans ce cas-là, on parle d'une pathologie duelle qui nécessite donc une double prise en charge et psychiatrique et addictologique. Donc, quelle structure il existe ? Donc, si on commence sur la part addictologique, on peut classer entre guillemets les choses en ambulatoire, c'est-à-dire qui se fait en ville, et à l'inverse en hospitalier. En ambulatoire, donc, il y a plusieurs associations qui existent. Il y a ce qu'on appelle les CSAPA, donc C-S-A-P-A. C'est les centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. À Bourg-en-Bresse et sur l'Ain, il existe deux CSAPA différents. Il existe aussi les CARUD, donc les centres d'accueil et accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, qui à Bourg-en-Bresse sont aussi rattachés à l'association AIDS, qui était l'association historiquement pour le sida, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus large. Donc ça peut aussi être une porte d'entrée, souvent plus en amont, c'est-à-dire pour les gens qui sont encore dans la consommation, qui n'ont pas vraiment de volonté de sevrage pur, mais qui viennent pour justement réduire les risques en lien avec leur consommation. C'est un peu une première porte d'entrée vers l'addictologie. Ensuite, on a donc le DAC-01, qui est le dispositif d'appui et de coordination de l'Ain, qui lui va proposer un peu une prise en charge globale et qui regroupe un peu plein d'acteurs différents au sein du département et qui va permettre d'orienter les patients vers les associations et les structures les plus adaptées. Eux, ils ont une prise en charge avec une équipe pluridisciplinaire qui sait parfaitement orienter les patients. On peut aussi avoir le CHRS, donc c'est des centres d'hébergement et de réhabilitation sociale, qui eux servent principalement sur l'aspect social et qui peuvent être souvent un lieu de vie pour les patients qui n'ont plus. Et après, on a les groupes de parole ou les associations néphalistes, qui eux font des groupes de parole avec les patients consommateurs ou abstinents. Il existe plusieurs associations dans l'Ain qui ont là aussi des antennes un peu disséminées dans les différentes communes du département.
Alors, existe-t-il un délai d'attente pour être pris en charge et comment évaluer l'urgence d'une situation ?
Alors oui, chaque structure va avoir un délai d'attente. Hein, ça va dépendre de l'hospitalisation et de la consultation. De l'ordre de la consultation, à l'heure actuelle, mes délais d'attente sont de l'ordre de un mois et demi, à peu près. En hospitalisation, on est sur un mois et demi également, sur les derniers rendez-vous que j'ai pris, il me semble. Après, il y a effectivement un degré d'urgence. Alors, il y a à la fois l'urgence ressentie par le patient, il y a à la fois l'urgence ressentie par l'entourage. L'urgence, ça va être surtout sur le risque suicidaire. Hein, c'est essentiellement ça qui va être le pivot qui va pouvoir nous amener. Ben, éventuellement, il faut voir le patient aujourd'hui et puis trouver un moment. Quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Donc, le degré d'urgence, il va être surtout à ce niveau-là. Il va se faire déjà dès l'accueil quand le patient va appeler. Et nos secrétaires sont quand même bien maintenant formés à tout ça. Et elles vont pouvoir faire un premier tri. Juste pour revenir sur la question précédente, parce qu'on a vu tout le côté ambulatoire, mais pas le côté, on n'a pas fini le côté hospitalier ou institutionnel. Mm-hmm. Il y a ce qu'on appelait avant les anciens SSR, qui sont maintenant les SMR, donc qui sont des structures où on va avoir on appelait ça les cures avant, parce que les patients, ça leur parle bien, ça. Où les patients vont pouvoir avoir un temps d'hospitalisation qui sont de 4 à 6 semaines, voire plus. Hein, pour certains, ça va être sur plusieurs mois. Où là, on va vraiment travailler tous les plans de vie du patient. On va travailler vraiment ce versant à la fois addiction, à la fois psychiatrique, à la fois social. Il va y avoir de la réhabilitation pour les patients qui sont vraiment en rupture complète. Hein, avec, il y en a même certains qui vont avoir certaines SMR qui ont des réhabilitations pour le travail. Où là, on va pouvoir rester jusqu'à 2 ans en institution.
Voilà. Et donc là, cette prise en charge longue, elle est possible sur Bourg-en-Bresse, sur le territoire ?
Alors celle-là, non, la plus proche est sur, juste à la limite nord du territoire, sur le Jura. C'est Blétran qui l'assure, c'est le centre Blétran. Nous, sur l'Ain, on a deux structures. On en a une qui est l'Espérance, qui dépend du groupe France Médicale du Territoire de l'hôpital. Hein. Et puis l'autre qui est une structure privée, qui est la clinique de Châtillon-Michaille. Au départ, c'est une clinique psychiatrique et qui s'est aussi spécialisée en addiction. Elle accueille aussi en partie les soignants, hein, parce que tout le monde peut être touché par cette pathologie. L'addiction, c'est un symptôme. Hein, c'est une maladie qui est chronique, certes, mais c'est un symptôme. L'addiction, si on consomme un produit, si on a un comportement, un trouble de l'usage du comportement, c'est pas par hasard, hein, c'est pour venir apaiser une souffrance. D'où l'importance de la prise en charge à la fois sur le plan psychologique et addictologique. Ce n'est pas en enlevant le produit simplement, si on ne se soucie pas de la cause, qu'on va régler le problème.
Ça fait plusieurs fois que vous parlez, vous associez l'addiction et la maladie psychiatrique. Lequel mène auquel, en fait ?
Les deux sont extrêmement liés, elles sont intriquées. Alors savoir, c'est comme l'expression, vous savez, de la poule et de l'œuf, là c'est un petit peu pareil. Il faut prendre les deux en compte. Alors la plupart des produits, notamment, on va prendre l'alcool qui est le plus fréquent, c'est un produit qui, sur l'instant, va avoir un effet anxiolytique, donc anti-stress, si vous voulez, fait baisser un petit peu le degré d'anxiété, voire désinhibant, mais sur long terme, qui va être au contraire anxiogène, en créant de l'anxiété, pouvant créer également de l'angoisse, voire créer une dépression. Mais elle peut aussi augmenter une dépression déjà présente. Donc savoir, voilà, qui a entraîné quoi, finalement, peu importe, il va falloir prendre les deux en considération. Et c'est là on arrive au dernier versant, enfin, qu'on n'a pas cité, pas le dernier versant, mais celui qu'on n'a pas cité sur les professionnels du soin qui interviennent, c'est tous les professionnels de la santé mentale, hein, sans qui on ne pourrait pas travailler. Donc avec son niveau, sur le plan institutionnel, on est bien sûr le CPA, hein, qui est le centre de référence sur le département de l'Ain, qui va travailler également avec ce qu'on appelle les centres médicaux sociaux, les CMP, où donc là, on va avoir une prise en charge ambulatoire. Et puis après, on va avoir deux types de structures, qui sont les équipes mobiles, qui vont faire le lien entre les patients qui sont déjà en soins et à domicile, et puis les équipes mobiles qui vont aller vers le patient, qui, elles, ne sont pas encore dans le soin. Hein, donc, elles dépendent du carrefour santé mentale et précarité. Et là, petit à petit, elles vont amener les patients un peu dans le soin.
Là, vous parlez de précarité. Tout à l'heure, vous avez évoqué le CHRS. Est-ce qu'il y a aussi un lien entre conditions sociales et addiction ?
Alors, clairement, ce qu'il faut pouvoir retenir quand on parle d'addiction, c'est que ça touche n'importe qui, n'importe quand. C'est-à-dire, quelle que soit la condition sociale, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire de vie, entre guillemets, personne n'est à l'abri. Et donc, nous, on est amené à voir tout type de population, si on peut dire. Ce n'est pas un très beau terme. Mais en tout cas, on accueille tout le monde et en pratique, on voit tout type de patients. Et avec chacun leur histoire de vie, chacun leurs difficultés, chacun leurs souffrances. Si c'est souvent le point commun de tous nos patients, c'est qu'ils viennent parce qu'ils sont en souffrance, qu'ils consomment parce qu'en fait, ils essaient juste de survivre et qu'ils n'ont pas trouvé de façon de faire autrement. Et donc, nous, notre rôle, c'est de les accueillir tels qu'ils sont, sans jugement et avec le maximum de bienveillance, pour essayer de trouver des solutions en commun et si ce n'est effacer leur souffrance, essayer de trouver des alternatives à la consommation ou au comportement pour sortir de cette souffrance-là.
Donc à partir de quand une consommation, on peut dire qu'elle est problématique ? On a beaucoup abordé le sujet de l'alcool, on entend toujours qu'en France, en tout cas, on peut boire 2 verres par jour. Est-ce que c'est vrai ?
Alors là aussi, on touche à 2 choses différentes, c'est-à-dire que les critères que vous donnez ou les repères que vous donnez, c'est des repères à partir duquel on considère qu'il y a un sur-risque important somatique. C'est-à-dire qu'au-delà de cette consommation-là, on prend un risque pour sa santé de développer des complications. Ce n'est pas du tout un repère addictologique. C'est-à-dire que ce qui fait l'addiction, c'est jamais la quantité. C'est-à-dire que quand on parle d'addiction, dans la définition même, il n'y a jamais de notion de quantité. On n'est pas addict parce qu'on consomme 1 litre de vin ou 1 litre d'alcool. Et à l'inverse, on n'est pas addict si on consomme que 3 verres. Ce qui fait l'addiction, c'est la façon dont on consomme. C'est qu'est-ce qu'on attend derrière la consommation, qu'est-ce que la consommation nous apporte et quelles en sont surtout les conséquences. Et c'est en évaluant tout ça qu'on peut dire s'il y a une addiction ou s'il n'y en a pas, entre guillemets, sachant que ce n'est pas noir ou blanc, c'est plutôt un continuum entre une consommation qui au départ est maîtrisée, avec insidieusement petit à petit des pertes de contrôle, jusqu'à basculer dans l'addiction à proprement parler, dès lors qu'il commence à y avoir des conséquences, des pertes de contrôle, des symptômes physiques, des symptômes psychologiques. Voilà, c'est un ensemble de critères qui nous font dire qu'on rentre dans l'addiction.
Donc, par exemple, quelqu'un qui boirait un verre de vin par jour, mais qui pourrait vraiment pas s'en passer, même si c'est qu'un verre, c'est déjà une addiction ?
Oui. Alors on est sur un verre, on n'est pas sur un litre, effectivement, mais il ne peut pas s'en passer. Donc il va être obligé d'avoir en permanence ce verre. Sans ce verre, ben, plus rien ne va. C'est-à-dire que sa vie va tourner autour de ce verre. Il faut qu'il soit certain qu'il ait la possibilité de consommer ce verre dans la journée. Donc ça va avoir forcément des répercussions sur son quotidien. Il faut qu'il soit sûr de l'avoir, donc il a bu. Quand il a bu, il faut être sûr qu'il en a un deuxième pour le lendemain. Donc oui, ça devient une obsession quelque part, et ça va modifier sa façon de fonctionner. À partir du moment où la première pensée tourne autour du produit ou du comportement, oui, c'est devenu problématique.
Ouais, parce qu'on a souvent tendance à lier la dose, en fait, avec, surtout avec le tabac et l'alcool qui sont légales. Et,
oui, on a les images on voit l'image de 7h du matin, le bar du coin, et vous prenez votre café, votre chocolat chaud, je ne sais pas quoi. Et puis du monsieur qui a son verre,
son petit ballon.
Voilà, son petit ballon de blanc, qui est bien posé sur le comptoir, qui ne va pas prendre à la main, parce que s'il le prend, le pauvre, il va y en avoir la moitié sur le comptoir du fait d'événement, qui va boire son verre. C'est un petit peu l'image qu'on a, puis on dit, moi, je ne suis pas comme ça, quoi. La question de quantité n'entre pas. Là, on est sur un problème de dépendance physique. Donc, quand il n'y a pas le produit, effectivement, le corps réagit de cette façon-là, parce qu'il en a besoin. Ça entraîne des modifications chimiques et neurologiques à l'intérieur. Donc, il a besoin de cet alcool pour pouvoir fonctionner, en quelque sorte, sur le plan physique. Mais ce n'est pas ça qui va forcément définir les choses. C'est vraiment un ensemble de critères, et c'est surtout des répercussions sur le quotidien, sachant qu'on peut entrer dans l'addiction par une des dépendances, quelle qu'elle soit, hein, la physique, la comportementale ou la psychologique. Il n'y a pas de blanc ou de noir, on n'est pas addict. Addict, non, c'est quelque chose qui est en filigrane et qui se fait petit à petit.
Et peut-être juste pour vulgariser, pour donner un peu des repères aux auditeurs, on sort un peu du cadre purement médical que nous on utilise, mais on a souvent l'habitude de dire aux patients, s'ils veulent un peu se jauger, savoir où ils en sont, qu'on rentre dans l'addiction dès lors que la consommation, elle n'est plus festive dans le sens de très ponctuel, occasionnel. On disait par exemple tous les jours, forcément c'est une répétition, mais tous les week-ends c'est aussi une forme de répétition. Et le troisième critère, c'est maîtriser, dans le sens où on peut fixer une limite et s'y tenir. Par exemple, est-ce que le patient ou la personne est capable d'aller dans une soirée, de dire aujourd'hui, moi, c'est 2 unités d'alcool et puis point barre ? Ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une perte de contrôle, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'arrêter une fois qu'il a passé les 2 unités ? Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on dit souvent aux patients. Il faut que ça reste festif, occasionnel et maîtrisé. Ce n'est pas médicalement pur, mais ça donne une bonne idée de où on se situe par rapport à la consommation.
Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, c'est une maladie chronique. Est-ce qu'on peut revenir à une consommation festive lorsqu'on a été suivi en addictologie?
Alors c'est une question qui est très délicate, qui est complexe en pratique. En médecine, il faut bien se dire qu'il y a deux choses. Il y a des statistiques et puis il y a le patient. Si on part des statistiques, les possibilités de retrouver une consommation festive, occasionnelle et maîtrisée dès lors qu'on a eu une addiction et qu'on a donc été malade vis-à-vis d'un produit, elles sont relativement faibles. On estime qu'elles sont probablement entre 5, peut-être un peu moins. Il n'y a pas de chiffre très précis. Après, ça se travaille avec les patients en fonction de où ils en sont, de leur capacité et de leurs envies. Et il faut aussi savoir que on parlait tout à l'heure de l'hospitalisation de sevrage, mais le sevrage n'est pas la seule possibilité de soins en addictologie. Aujourd'hui, l'abstinence et l'arrêt n'est plus le seul dogme, entre guillemets, qu'on propose. On propose bien en amont ce qu'on appelle la réduction des risques. Et donc réduire la consommation, c'est déjà une forme de soin. Et donc c'est en essayant de réduire et peut-être de retrouver une consommation festive, occasionnelle et maîtrisée qu'ils vont se faire leur propre expérience et qu'ils vont se rendre compte, est-ce que c'est possible pour moi ou est-ce que c'est pas possible pour moi? Parce qu'en fait, dès lors que je reprends un verre, c'est l'engrenage et ça repart.
Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Hugues. Ce qu'on crée, c'est un lien, c'est pas un conflit. Souvent, ces patients sont en rupture de lien. L'addiction, c'est une pathologie du lien. Donc, notre premier rôle, je pense, c'est de créer ce lien avec le patient.
Je me posais une question par rapport au fait ou la possibilité, enfin, au-delà de la possibilité, même la dangerosité d'essayer de se sevrer seul.
C'est aussi une question importante. Alors là, on va être obligé de raisonner en termes de produits, puisque les risques dépendent forcément du produit consommé et donc du produit arrêté. Le produit et l'addiction dont le sevrage est le plus dangereux, c'est clairement l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool, c'est quasiment le seul produit qui, lorsqu'on l'arrête brutalement, peut engager potentiellement le pronostic vital du patient s'il n'a pas été pris en charge médicalement. Pour les autres produits, globalement, c'est plutôt le surdosage qui est dangereux. C'est-à-dire l'overdose, si on parle d'héroïne, de cocaïne, les prises massives de cannabis qui peuvent entraîner des épisodes de bouffées délirantes, par exemple. Voilà. Mais c'est surtout la consommation en elle-même ou la surconsommation qui crée du risque, plus que le sevrage qui va par contre être particulièrement inconfortable, mais qui n'engage pas directement le pronostic vital du patient.
Alors dans ce cadre, quelle peut être la place des proches dans un parcours de lutte contre l'addiction ou de soins ?
La place des proches, elle est extrêmement importante. Déjà, leur présence simplement est extrêmement importante. Ça va soutenir le patient, c'est évident. Après, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'est une souffrance pour le patient, mais c'est aussi une souffrance pour l'entourage. Donc il faut penser aussi pour ses proches à pouvoir se protéger. Savoir que dans les différentes structures qu'on a citées tout à l'heure, il y a plusieurs structures qui proposent des prises en charge pour l'entourage. Hein, donc ça permet déjà de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ce moment difficile, délicat et quelquefois où on se sent dans une totale impuissance. Quand on a des proches, ça n'a rien à voir quand on est strictement seul. Hein. C'est aussi souvent une motivation pour nos patients, c'est ce qui donne un sens aussi à leur démarche. Hein. La présence de cet entourage familial ou amical ou professionnel, en tout cas la présence de proches qui est encore là, est une motivation importante et qui va les pousser à avancer, à bouger, enfin, à supporter aussi un petit peu la douleur qui est là, et parce que le parcours est loin d'être simple. Hein.
Alors enfin, c'est ma dernière question. Est-ce que nous ne sommes pas tous et toutes addicts à quelque chose finalement ?
Je crois que l'humain, il est addict de façon générale. Après, avoir les répercussions pour chacun dans son quotidien, à apprendre à se connaître, à savoir évoluer, hein, parce qu'on évolue tout au long de notre vie.
En fait, dès lors qu'on a un comportement répété qui commence à avoir des conséquences dans notre quotidien et qui peut peut-être déséquilibrer notre vie de façon générale, on rentre dans l'addiction. Oui. Donc, l'addiction, c'est un comportement qui, au départ, est un comportement plutôt bénéfique pour l'être humain et qui va basculer dans quelque chose de disproportionné, déréglé, dérégulé et qui finit par devenir une maladie, en fait.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous retrouverez toutes les coordonnées des organismes de suivi et de soutien cités dans l'interview dans les notes du podcast.
Radio B, les bonnes ondes.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa, merci Hortense, à la technique.
Merci Perrine. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du magazine d'info locale qui vous engage.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B sur 90 FM. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.